le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Millions de proches aidants en France soutiennent régulièrement, voire quotidiennement, un parent âgé, un enfant handicapé ou un proche. Qui sont-ils? Comment vivent-ils au quotidien? Quelles ont été leurs expériences lors de l'épidémie de la Covid-19 et depuis? Comment les aider? Pour en débattre, nous avons invité Hubert Stéphan, président du conseil d'orientation de l'EREB, l'espace de réflexion éthique de Bretagne. Danielle Imeli, référente UNAFAM, Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Françoise Leborgne-Huguin, sociologue, professeur des universités, membre du laboratoire d'études et de recherche en sociologie, le LABERS, à l'UBO. Et Muriel Rebourg, juriste, professeur des universités, membre du LabLex, le laboratoire de droit de l'UBO. Pour entamer notre réflexion, nous nous intéressons dans ce numéro aux acteurs eux-mêmes. Qui sont les aidants? Qui aident-ils? Quels sont les professionnels de santé immédiatement impliqués? La parole à Danielle Imeli de l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques.
Alors, les caractériser, c'est-à-dire définir qui vient frapper à notre porte.
Qui vient frapper à votre porte,
oui. Voilà, ça peut être des parents, ce sont souvent des parents, mais ça peut être aussi des conjoints, ça peut être des frères et sœurs, et ça peut être des enfants.
C'est, on me fait des petits signes comme quoi il faut parler fort.
Ah, d'accord. C'est juste... Je ne parle pas assez fort. Est-ce qu'il faut que je répète ce que je viens de dire?
Non, peut-être non. Pas. Bien, non, non.
Bien, donc voilà, c'est mais ça peut être aussi des amis. J'ai vu une fois des voisins venir parce qu'ils sont, ils se trouvent confrontés à des situations quasi insolubles. Ils ne savent plus à quelle porte frapper pour savoir comment aider leurs proches. Et puis surtout, être entendus et parce qu'ils sont épuisés. Ils ne savent plus quoi faire.
Du coup, je vais me retourner maintenant vers Muriel. Alors, Muriel Rebourg, Muriel, y a-t-il, enfin, j'imagine, une définition juridique d'un aidé et d'un aidant? Comment les juristes définissent un seuil pour distinguer les personnes qui peuvent revendiquer d'être aidées déjà par la puissance publique et pour distinguer les personnes qui peuvent être qualifiées de proches aidants, donc qui sont distinctes de toute autre personne qui aide ses proches?
Alors, comme vous l'avez dit, la figure de l'aidant. Elle est multiple et elle est surtout finalement présente au quotidien pour un grand nombre. Mais c'est vrai qu'au niveau juridique, on a d'abord eu des notions assez, même, et de même que dans la littérature d'ailleurs, une pluralité de notions. On parle souvent d'aidants familiales, d'aidants naturels, d'aidants informels. Dans les législations, on a utilisé au départ celle d'aidants naturels, après celle d'aidants familiales. Et là, en fait, dernièrement, en 2015, comme vous le savez, il y a une loi d'adaptation de la société au vieillissement qui a été votée et qui a, on va dire, consacré la notion plus de proche aidant. Alors, c'est vrai que c'est dans un champ sur le vieillissement, mais on va voir que, finalement, cette notion de proche aidant, elle a irrigué un petit peu plus largement, on va dire. Ça devient vraiment une notion centrale, en tout cas, dans la politique en direction des personnes âgées. Alors, cette loi, elle donne une définition juridique qui est très générale, qui n'est pas créatrice de droit, on le verra après, mais qui est très générale et qui donne quand même des indices. Alors, madame en a parlé tout à l'heure, en fait, quand elle parle des gens qui viennent la voir, puisque vous voyez que c'est assez multiple. Et dans la loi, on retrouve ça. C'est-à-dire que dans la loi, on nous dit qu'est proche aidant aussi bien le conjoint marié que le partenaire pacsé, que le concubin, que un parent ou un allié, donc au sens de l'alliance, et que ces personnes-là, on va les appeler plutôt aidants familiaux. Et à côté, on va avoir donc des personnes aussi autres, en dehors du lien de famille et de parenté et d'alliance, ce que la loi appelle les personnes résidant avec le proche aidé ou entretenant avec elle des liens étroits et stables. Donc, vous voyez déjà, la première chose, c'est qu'on définit l'aidant par rapport à celui qui aide, et que c'est beaucoup plus large que la parenté, l'alliance ou les liens de couple. Ça inclut tous ces liens de fait, on va dire, qui sont des liens de proximité de vie, hein, vivre avec quelqu'un, ou des liens de proximité affective, parce que, ou amicale, comme vous l'avez dit, puisqu'on, alors la loi dit qu'il faut quand même entretenir des liens étroits et stables. Il va falloir, du coup, établir ces liens étroits et stables, mais c'est déjà un premier indice qu'on a vraiment dans la loi, en fait, une vision assez large, finalement, de l'aidant. Après, dans la définition, si je peux continuer, on nous dit aussi que cette personne, donc, elle vient en aide de manière régulière et fréquente, donc à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Donc, vous voyez, après, on définit, en fait, la fonction d'aide du proche aidant, qui est l'accomplissement de tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Alors, c'est quand même une formule aussi qui est assez large. Hein, ça a été volontaire de la part du législateur de n'exclure, en fait, aucune forme d'aide. L'idée, c'était que, comme vous l'avez dit, on pouvait intégrer aussi bien les démarches administratives que le soutien moral, que l'aide aux tâches de la vie quotidienne, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé cette formule assez large dans la loi. Mais ensuite, on nous dit quand même que l'aide, elle doit être régulière et fréquente. Il y a quand même, vous voyez, ce critère-là. Bien évidemment, on ne va pas plus loin dans la définition, ce n'est pas beaucoup plus précis, parce que c'est la loi est souvent très générale. Mais il faut quand même que cette aide, elle soit régulière et fréquente. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, dans cette définition qui est très générale, on a les grandes lignes, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler le proche aidant et ses activités. Mais on verra après que, suivant finalement les droits qui sont octroyés au proche aidant, on va s'intéresser davantage au degré de l'aide octroyée et aussi à la situation de l'aidé. Sa situation, évidemment, en tant que perte d'autonomie, notamment, ou de handicap. Donc, c'est plutôt ensuite que dans les droits sociaux, notamment, qui sont octroyés, on a des conditions spécifiques qui vont être posées, mais je ne vais peut-être pas détailler tout de suite les prestations, mais en fonction de des droits, on va vous dire que, par exemple, il faut que l'aidant ait fourni une aide indispensable pour pouvoir bénéficier d'un droit au répit. Ou alors, il faut que, dans d'autres situations, la personne soit dans une situation de perte d'autonomie particulièrement grave pour pouvoir bénéficier, par exemple, du congé de proche aidant. Donc, vous voyez qu'après, on va être beaucoup plus dans des conditions spécifiques. À chaque prestation, va avoir des conditions spécifiques. Ce qui fait qu'évidemment, là, on est dans des dispositifs peut-être un peu plus pragmatiques, mais qui vont déterminer et limiter, finalement, le nombre de personnes bénéficiant de ces aides.
Bien, je vais poursuivre la question en fait avec Françoise. D'ailleurs, il faut préciser aussi, Françoise et Muriel travaillent ensemble. les sociologues travaillent avec les juristes et vice-versa. C'est une bonne nouvelle. Parce que là, on a eu la définition d'un juriste qui ne peut qu'appréhender des situations un peu générales, finalement. Ouais. Ah. Et qui a mis au centre de cette définition, un, ça part de l'aider, donc il faut qu'il y ait un aider. Deux, des liens. Et trois, que ce soit régulier. Et en plus, qu'il y a des prestations, il y a une autonomie. Voilà. Mais les sociologues sont allés dans les maisons. Ils sont allés enquêter, ils sont allés dans les familles. Et Françoise l'a fait. Donc, Françoise, vous avez travaillé sur les parcours et les relations aidés-aidants. Quelles sont les caractéristiques des configurations de soutien entre proches que l'on peut retenir? Première question, qui est concerné? Et c'est important aussi, quels sont les événements? Parce que aidant, c'est pas, on n'est pas aidant. Hein. Quels sont les événements qui conduisent à prodiguer du soutien, à devenir un aidé et aidant? Pour finir, peut-on catégoriser les manières d'exercer le soutien et les logiques données à ces pratiques? Donc là, on rentre vraiment dans le détail avec le regard de la sociologie.
D'accord. Alors, c'est un peu difficile de traiter de la question des aidants comme ça, de manière assez globale.
Oui.
Peut-être que, en sociologie, ou dans les enquêtes, en tout cas, on trouve des données qui sont catégorisées par âge. Alors ça, peut-être, c'est aussi quelque chose d'important. Si on prend, par exemple, les enfants en situation d'avoir besoin de services de santé et de soins entre 0 et 24 ans, eh bien, on va trouver qui comme intervenant principal? Dans 84%, la mère. Donc, vous voyez bien qu'il y a aussi toute une construction du soutien qui s'inscrit dans les rôles de parenté, dans le rôle de père et de mère. Mais en l'occurrence, là, on voit quand même la force du rôle de la mère par rapport à ses enfants, et en particulier dans toutes les situations où il y a des soins de longue durée à prodiguer auprès des enfants. Quand on avance un peu et qu'on déplace le curseur et qu'on regarde des bénéficiaires de soutien qui auraient plutôt, qui ont entre 25 et 59 ans, là, on va trouver principalement le conjoint, c'est-à-dire être en couple aux âges intermédiaires. Si on est en couple, c'est forcément le conjoint qui va être amené par les politiques publiques, par les professionnels, mais aussi par le lien qui l'attache ou le détache, ça dépend de son partenaire. Être conjoint, c'est forcément être exposé à donner du soutien, alors de différentes formes, mais c'est vraiment la conjugalité. Parfois, à ces âges-là, on va revoir une autre figure arriver, qui est la figure de la mère de la personne concernée. Donc, vous voyez bien, la filiation, avoir des enfants qui, à des âges intermédiaires, ont des soucis de santé, ça rejoint ce que vous dites. Hein. Les mères sont présentes plus que les pères. Je crois que les pères sont présents simplement à 2%. Je ne vois pas très clair non plus. Et les mères sont présentes à 15%. Donc, vous voyez bien, quand même, dans ces âges intermédiaires, la conjugalité et la parentalité, le fait d'être père, d'être mère en particulier. Et dans les chiffres qui comptent, sinon, on trouve une autre personne de la famille, mais une femme. Et ça, c'est vrai pour le jeune âge, comme jusqu'à 59 ans. Alors après, quand on est dans les 60 ans et plus, là, on retrouve très fortement la conjugalité qui va intervenir surtout pour les hommes qui sont destinataires du soutien. Et puis, on va voir arriver, quand l'aidé est une femme au grand âge, ben, quand même des conjoints. Les couples âgés vivent plus longtemps avec des incapacités partagées entre les deux membres. Donc, il y a aussi pas mal d'hommes âgés qui accompagnent leurs conjointes en difficulté, qui ont besoin de services d'autrui. Et puis, auprès de ces femmes, on va voir arriver aussi les filles principalement, 18%, et les fils dans une proportion qui n'est pas négligeable, hein, 10% dans les configurations de soutien auprès des vieilles personnes. Il y a des fils soutien pour plein de raisons, parce que il y a parfois pas de filles et que parfois les positions résidentielles ou les histoires de vie font que c'est les fils qui vont s'engager davantage. Donc ça, c'est si on regarde les choses un peu à travers des moments du parcours, mais là, on regarde plutôt du parcours du bénéficiaire, quoi. Si maintenant, on dit juste quelques mots sur qui s'engage, eh bien, on se rend compte, là, pour les 60 ans et plus, que plus d'un quart des personnes qui s'engagent sont des conjoints qui ont en moyenne 73 ans. Si on regarde d'autres acteurs, plus de la moitié sont des enfants qui sont âgés en moyenne de 52 ans et demi. On passe sur la demi. Ce qui est important, c'est que 37% d'entre eux exercent une activité professionnelle. Donc là, il y a une question quand même pour le tiers de ces 53%. L'idée, c'est de regarder comment ils vont articuler, combiner, réussir à passer d'une sphère à l'autre et de rajouter à toute leur carrière déjà professionnelle, citoyenne, associative, filiale, conjugale, comment ils vont rajouter un investissement de poids auprès de leurs parents en difficulté. 12% sont des membres de la famille plus éloignés, mais l'entourage familial, au total, il fait quand même 82,7. Donc, quand on parle d'aidant, bon, le terme déjà est à discuter quand même, hein, parce que c'est l'extérieur qui a introduit ce mot d'aidant. Muriel Rebourg l'a souligné. C'est quand même le droit qui fait qu'on utilise de plus en plus ce terme-là, c'est l'action publique. C'est pas sûr du tout que si on s'interrogeait chacun ici, on se reconnaisse dans ce terme d'aidant. On a le souci de quelqu'un, un conjoint, un parent, un enfant, un frère, une sœur. On est préoccupé par, on a du travail qui nous arrive ou qu'on est amené à demander quand on est en besoin de soutien. Mais je suis pas sûre que le terme aidant, c'est un terme qui est vraiment importé de l'extérieur et qui a quand même un gros inconvénient, c'est qu'il amalgame des positions de famille, des liens qui ne sont pas du tout tenus par les mêmes types d'obligations. Et bon, on verra plus tard, mais le fait d'être conjoint, ça engage quand même les liens, ou non, on s'en dégage, mais ça a aussi des aspects de construction d'obligation. Donc, entre parents et enfants, dans la conjugalité aussi, donc il faut bien quand même défaire le brouillard qu'il y a autour du terme aidant, parce que quand les acteurs publics disent on va aider les aidants, de qui parle-t-on ? C'est pas du tout la même chose quand on est conjoint amené à se mobiliser auprès d'un partenaire qui était indépendant jusque-là, avec un horizon de temps de 30 ans ou de 20 ans, que d'être à 90 ans concerné par une pathologie de courte durée, ou d'être avec un enfant malade qui va vivre avec des limitations pendant l'ensemble de son parcours de vie. Donc effectivement, je pense qu'il faut trier, enfin, en tout cas ne pas hésiter à faire préciser à nos interlocuteurs. Quand il parle d'aidant, est-ce que c'est pour amener des dispositifs qui facilitent la vie de ce qu'on fait, qui facilitent le quotidien des individus, ou est-ce que c'est un terme englobant pour ranger des individus autour de prestations qui sont quelque part des facilitateurs, mais qui ne disent pas du tout la totalité de ce que c'est que l'expérience de soutenir quelqu'un dans la durée, avec lequel on a des liens affectifs, avec lesquels on peut aussi avoir des tensions, parce que je crois qu'il faut être aussi peut-être assez précis. Il y a quand même beaucoup d'ambivalence autour de cette question de l'aide, hein, autour de cette question de soutenir dans le quotidien, jour et nuit parfois. On est aussi ambivalent, il y a des tensions dans tout ça. Et donc la question, c'est bien aussi parfois, je crois qu'il faut aller aussi jusque-là, est-ce qu'on peut suspendre un peu? Et le congé proche aidant, est-ce que vraiment on peut le prendre? Est-ce qu'on peut se retirer un petit peu pour faire autre chose? Ou est-ce qu'on est, bon, je ne voudrais pas exagérer, mais est-ce qu'on n'est pas quelquefois pris sous capture, enrôlé? Alors les enfants uniques hein, disent ça, mais pas que, les conjoints aussi, les enfants aussi. Le fait d'avoir le sentiment, et plus que le sentiment, d'être pratiquement convoqué et sous contrainte pour exercer ce type de travail. Donc je pense qu'il ne faut pas minorer tout ça, parce que sinon on a l'impression que c'est un peu quelque chose en plus qui vous arrive comme ça et qui fait partie des parcours. Bon, en réalité, c'est quand même, on peut les regarder aussi comme des épreuves du parcours de vie qui sont liées à la longévité, qui sont liées au progrès de la médecine, qui sont liées à notre manière de vivre aussi, nos modes de vie qui ont beaucoup changé. Mais voilà, je ne veux pas être longue, hein, mais...
Non, mais c'était important, oui, oui. On voit, les situations sont très hétérogènes et il ne faut pas les naturaliser. Pour être complet sur le pays, enfin, pour être complet, on n'est pas complet, mais on a vu les aidés, les aidants, et autour, il y a des institutions parfois proches, parfois lointaines et qu'il faut contacter. Je peux poser la question peut-être à Daniel et puis à Hubert. Peut-être d'abord à Daniel, quels sont, quand on est à l'UNAFAM, quelles sont les premières professions, les premières institutions qu'on repère qui seront utiles et nécessaires pour aider des aidants?
Pour aider les aidants, bon, il y a plusieurs professions, hein, et puis c'est vraiment très vaste. Je vais essayer de balayer un peu tout pour vous donner un peu...
Les premiers, déjà que...
Les premiers, donc, ça sera en premier lieu les médecins généralistes,
oui.
Les psychiatres. Alors, je parle bien entendu des personnes souffrant de troubles psychiques et donc de leurs proches aidants, hein, les psychiatres, les psychologues, les assistantes sociales. Mais ça peut être aussi à certains moments de la vie les gendarmes, les pompiers, oui. Les enseignants, quand ce sont de jeunes adolescents qui entrent dans la maladie, les enseignants sont très importants aussi. Qu'est-ce que je pourrais... alors, mais je pense aussi, parce que moi j'y ai eu personnellement affaire, les kinés sont d'une très grande aide. Mais aussi, quelquefois, pourquoi pas, les esthéticiennes, les coiffeuses, parce que ça remonte le moral quand on est au fond du trou. Donc, il y a une palette de professions très vastes qui peuvent venir en aide aux aidants, même si on n'a pas vraiment ça présent à l'esprit dans un premier temps.
D'accord. Peut-être que je peux vous poser la question aussi, Hubert, Stéphane, non ?
Alors, au départ, quand on a la contrainte de devenir aidant, on est perdu. On ne s'adresse pas directement à une association. Comment vient-on à connaître les associations? C'est en cherchant un petit peu. déjà le début du parcours du combattant. Beaucoup, j'ai entendu tout à l'heure dire que c'est le parcours du combattant, mais c'est le début du parcours du combattant. C'est-à-dire que dans certains services médicaux, effectivement, les associations correspondantes à la maladie mettent de la documentation. Les gens se servent ou ne se servent pas, a priori, et ne se servent pas parce que ça concerne les autres et ça ne concerne pas moi. Donc, on reste un petit peu entre soi, en famille, et on ne prend pas la mesure de s'extérioriser, de voir autre chose. Et c'est le gros problème des aidants, parce que en tant que usager sur le territoire 5, on avait fait un grand débat public sur les aidants. Et la première chose qu'on avait constatée, c'est que les aidants ne se reconnaissaient pas aidants. Donc pour pouvoir entrer dans le domaine juridique et avoir droit à des prestations, il faut d'abord se reconnaître aidant, ce qui n'est pas du tout évident. On fait ça parce qu'on estime que c'est son devoir de le faire, c'est notre morale, disons. On doit aider ses proches, mais doit-on aider son voisin ? Pourtant, on le fait. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est la première démarche. Se reconnaître aidant. Et c'est difficile parce que même nous, en tant que représentants usagers, on avait du mal à expliquer aux aidants qu'ils étaient des aidants. Et pourquoi ils étaient des aidants ? Alors, je donnerai une autre définition de l'aidant. Comment nous, on la voyait ? C'est vous produisez quelque chose qui peut être fait par un professionnel, quelqu'un d'autre, vous produisez une valeur économique. Si vous n'étiez pas là, quelqu'un d'autre devrait le faire. Et ce quelqu'un d'autre, ça a un coût. Donc, voilà comment on commence à être aidant. Donc, après, effectivement, quand on commence à creuser un petit peu, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à sa situation, on va s'adresser à une association, deux associations, trois associations, via des professionnels parfois qui vont nous orienter. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir à comment on va envisager l'avenir. Et il faut garder de l'espoir. Et c'est surtout ça que les professionnels essayent de donner, c'est donner de l'espoir aux gens. Les associations, c'est pareil, c'est donner de l'espoir. Alors bien entendu, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et les associations ont un rôle revendicatif pour faire avancer les choses. Donc il y a certaines maladies, je vais prendre une qui n'est pas citée ici, c'est la fibromyalgie par exemple. Pendant des années, les personnes qui étaient atteintes de fibromyalgie ont lutté pour faire reconnaître cette maladie comme une maladie. Ça a été très difficile.
Moi, oui. J'aurais souhaité que vous reveniez sur ce dont on a parlé en tout début de séance, sur la réflexion qui se mène autour de la du consentement.
Alors, bien entendu, c'est off parce qu'il n'y a aucune décision de prise. Pour l'instant, j'ai été associé aux travaux du CCNE, je dirais grâce à Karine Lefebvre, en tant que représentant d'usagers, pour avoir une vision un peu différente. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est que le consentement aux soins de chacun, ce n'est pas un oui ou un non, je consens ou je ne consens pas. Et il ne faut pas le donner à tout moment, il faut le construire. Ça, c'est l'idée générale qui ressort de toutes les auditions qu'on a. C'est une construction du consentement sur un temps assez long. Ça veut dire qu'il doit y avoir des relations régulières entre les proches, les personnes aidées, les aidants, les professionnels et autres, de façon à bien identifier dans où on va, où la personne veut aller, parce que c'est la personne concernée qui décide en dernier ressort. Et ça, c'est très difficile à se faire. Et en ce qui concerne le handicap psychique, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a des moments de lucidité, il y a d'autres moments qui ne sont pas des moments de lucidité. Et il ne faut surtout pas prendre à un moment donné un oui ou un non. Il faut se placer en prospective. Alors ça complique énormément les choses. Mais on essaye de se rapprocher de l'éthique, c'est-à-dire de la volonté de la personne. En gros, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, la loi du 4 mars 2002 dit aussi que le professionnel doit donner toutes les informations à la personne pour qu'elle ait un consentement éclairé. Consentement éclairé, personne ne sait ce que c'est d'ailleurs. Hein. Mais on s'est posé la question sur le plan éthique. Est-ce qu'il faut tout dire à la personne ? Est-ce que c'est son intérêt ? Une fois qu'on le sait, on le sait. Est-ce que la personne a envie de tout savoir d'un coup ? Vous prenez par exemple la maladie Huntington. qui arrive vers les 40 ans, mais jusqu'à 40 ans, vous vivez tout à fait normalement sans savoir que vous avez la maladie. Et est-ce qu'il faut dire à la personne de très tôt, vous avez la maladie de Huntington, à 40 ans, ben, votre vie va s'arrêter relativement rapidement. Est-ce qu'il faut le dire ou pas? Il faut bien s'interroger sur ces informations qu'on donne. Quelqu'un qui a un cancer, par exemple, est-ce qu'il faut lui dire tout de suite, vous avez un cancer de tel Dieu, vous avez tant de chances d'en sortir ou pas? On n'en sait rien. Est-ce qu'il ne faut pas lui proposer un certain nombre d'étapes pour pouvoir habiter, avoir un consentement? Bon, le consentement pour le cancer, souvent, c'est la chimiothérapie, une séance, deux séances, trois séances, mais au bout de trois séances, la personne, elle a le droit de changer d'avis. Est-ce que je continue à faire de la chimio? Quel est mon projet de vie? On revient au projet de vie. À ce moment-là, en fonction de ce que je connais, est-ce que je prends des médicaments à la place de la chimio? Il faut continuellement se repositionner par rapport à ce que la personne sait et ce qu'elle a envie de faire. Mais il n'est pas question de lui donner une information éclairée tout de suite, totale, puisque les progrès de la science font aussi que, peut-être dans 2, 3, 4 ans, ça va changer. Prenez le Covid aujourd'hui, supposons qu'il y a un vaccin demain. Vous n'aurez pas du tout la même réaction que s'il n'y a pas de vaccin. Donc, dire quelque chose aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de grand sens. Il faut progresser. Alors, c'est là que va effectivement être la complication, c'est qu'on est dans le doute permanent. On n'a pas de repères. Et on est vraiment dans l'éthique, puisque l'éthique est première. Et nous permet de prendre des décisions ou donner des avis sans vraiment être sûr que c'est le bon. Et il faut aussi se remettre en cause à tout moment. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Mettre le doute en avant.
Muriel,
sauf que dans les situations d'urgence, on n'a pas vraiment le temps de se pencher sur l'éthique.
Ah ben, la loi est claire là-dessus. En situation d'urgence, le médecin, il agit. Hein, c'est tout.
Oui, Muriel.
Oui, non, juste pour compléter, c'est vrai que le consentement binaire qu'on connaît, qui est un modèle très contractuel, il est évidemment largement dépassé quand on est face à des personnes vulnérables. La réflexion que mène le CCNE, évidemment, est très importante parce que c'est vrai qu'au plan du droit, quand quelqu'un a une altération, même s'il est majeur, il est censé consentir seul, mais il peut être, vous le savez, protégé juridiquement. Donc s'il y a une mesure de tutelle ou de curatelle, c'est quand même son protecteur qui va, on va le voir, peut-être avoir certains pouvoirs de décision. Même si la loi du 4 mars 2002 prône évidemment le consentement de la personne en premier, il y a justement dernièrement une ordonnance qui est sortie en mars dernier qui porte juste sur ces questions de majeurs protégés qui sont donc sous tutelle ou curatelle dans le domaine des soins et qui réitère bien sûr la question du consentement par la personne elle-même si elle est autonome, en fait si son état le permet. Toute la question c'est aussi l'évaluation au moment où se prennent ces décisions-là, c'est la question de la temporalité des décisions. On peut très bien être autonome quand on est devant le juge des tutelles et puis au moment de l'acte chirurgical ou autre ne plus forcément l'être. Donc ça pose aussi la question de cette reconnaissance de l'autonomie de son évaluation. Et puis il y a une espèce de gradation. Si la personne n'est pas autonome, elle peut être assistée par son protecteur ou voire représentée. Donc là, c'est vrai que si la personne ne peut pas du tout consentir, enfin elle est hors d'état, c'est vraiment le représentant qui va devoir en fait, à décider à sa place. Mais l'idée générale aujourd'hui, c'est vraiment d'éviter qu'il y ait cette substitution de volonté qui se fasse, puisque vous le savez peut-être, la Convention internationale des droits des personnes handicapées vraiment prône l'idée d'autonomie de toute personne vulnérable et handicapée au sens très large, et donc vise à ce que, par exemple, nos modèles comme la tutelle soient éradiqués et qu'on prenne davantage en considération la volonté et les préférences des individus. Sauf que c'est pas toujours évident, il y a des situations où c'est pas possible. Et puis il y a aussi une loi qui est là, un cadre pour l'instant juridique qui fait que, suivant la situation dans laquelle on se trouve, même si on prône aujourd'hui l'autonomie des majeurs dans le domaine des soins et donc le consentement de la personne en premier, il arrive que, en fonction du régime de protection sous lequel elle est et de sa situation individuelle, son protecteur soit obligé d'intervenir. Alors, évidemment, je ne parle pas du cas d'urgence ici, mais des cas de soins classiques. Donc voilà, je pense que c'est vrai que le cadre juridique ne répond pas toujours évidemment aux situations et que l'éthique est là pour, j'allais dire, permettre aux professionnels soignants de... Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en réflexion, c'est d'avoir des... c'est même pas la notion de consentement qui est forcément adaptée, d'ailleurs, mais de voir l'aptitude à consentir de l'individu et de peut-être aussi partager davantage la décision, comme vous l'avez dit, avec les proches, avec les professionnels, dans des situations où l'individu ne peut pas tout seul, en fait, décider pour lui-même.
Merci à Hubert Stéphan, président du conseil d'orientation de l'EREB, l'espace de réflexion éthique de Bretagne, à Danielle Émilie, référente UNAFAM, Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, à Françoise Leborgne-Huguin, sociologue, professeure des universités, membre du laboratoire d'études et de recherche en sociologie, le LABERS, à l'UBO. Et à Muriel Rebourg, juriste, professeur des universités, membre du LABLEX, laboratoire de droit de l'UBO. Nous les retrouverons dans le prochain numéro pour aborder les difficultés et fragilités particulières des aidants et les risques qu'ils encourent. Suite donc au prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.